justement les projets, la gueule ouverte, et il terminait. Le jardin de Babylone est un grand bouquin, ce n'est pas flatterie. C'est tout ce qu'il disait.
Oui, oh, c'était pas le genre de Fournier d'ailleurs.
Et qui était Pierre Fournier? Vous l'aviez connu
Je ne l'ai connu qu'à cette occasion, Pierre Fournier.
Instituteur, il était
instituteur. C'était un instituteur, mais surtout c'était un type gravement malade du cœur, vous le savez.
Dessinateur, un très bon dessinateur.
Très bon dessinateur, ouais. Qui a illustré ses chroniques et qui a imposé sa découverte du problème du rapport de l'homme et de la nature à ce milieu anarchisant où régnait l'idée que le désir pouvait faire n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment. En réalité, la pensée de Fournier est une pensée, je dirais, fondamentalement conservatrice. Quoi.
D'accord.
Au bon sens du terme, hein, pas réactionnaire.
Et vous avez rédigé beaucoup d'articles dans La Gueule Ouverte?
Ah, j'ai fait toute une série de chroniques.
Pendant combien de temps?
Oh, ça durait...
Après la mort
le
de
temps
Fournier,
de La Gueule Ouverte, je crois. Ça durait de 60...
On les a tous les numéros.
12.
72, le numéro, le premier numéro, c'est 72, et ouais. Ça a dû durer jusqu'en 77, par là.
Où je m'étais adapté, d'ailleurs, où j'avais pris le temps de la maison, vous savez.
Chronique du terrain vague, ça s'appelait.
Ça s'appelait Chronique du terrain vague, pour montrer que on évoluait vers...
Il y a aussi la rencontre à Ecoropa, alors, avec...
Oui, 73, 74.
Mais exactement. Ça, c'est venu après. Voilà. Quand les milieux bons chrétiens, vous savez, le fait social, ça s'impose à tout le monde.
La rencontre à Incalcate.
Et alors, la société globale, le groupuscule partagio, le catholique, et dans la société globale, il le suit toujours avec du retard. Hein. Oui. C'est pour ça que trois ans après, mon brave ami Cressman, quoi, a découvert que le problème écolo, ce n'était pas l'affaire d'un petit groupe de marginaux, de Charlie Hebdo d'ailleurs, mais que les églises devaient se poser ces questions. Et d'ailleurs, mon ami Édouard Cressman, vous savez, bon bourgeois chartronneux, fils d'une, on pourrait dire, de l'aristocratie du bouchon, quoi, avait, d'ailleurs avec des qualités de générosité, mais ce n'était pas un intellectuel, mais un excellent organisateur. Vous savez qu'il y avait le sens du public religieux, des relations mondaines avec les personnes importantes, qui avaient de l'influence. Et alors il a fondé Ecoropa, si vous voulez.
Et c'est là que vous avez peut-être, je crois, rencontré finalement pour la première fois Armand Petitjean.
C'est là, parce que ces réunions ont eu lieu chez Petitjean.
Et où?
À la Baume. La Baume, parce que Petitjean, qui disposait de beaucoup d'argent, avait acheté une superbe magnanerie dans un vallon des Cévennes à Saint-Hippide-du-Fort. Il avait fait aménager ça somptueusement avec une énorme bibliothèque, vous savez.
Oui.
Même pour moi, c'était un peu trop spectaculaire, je dois dire, ce style grand bourgeois parisien, quoi. C'est un peu milliardaire. Quoi.
C'était la première rencontre de Ecoropa, la première grande réunion fondatrice.
Henriette, il faudrait qu'Henriette soit là, parce qu'elle a meilleure mémoire que moi.
Oui.
Mais c'est là que j'ai rencontré Petitjean, là. Et alors, Petitjean, notamment, avait réservait une partie de la maison encore plus grande que cette cuisine, vous savez, avec une énorme bibliothèque dont il rêvait de faire une fondation parce qu'il y avait accumulé tout ce qui s'était publié sur le mouvement écolo.
Oui, oui, oui. Oui. Et Cressman le connaissait ou comment ils ont eux-mêmes lancé, parce que c'est Cressman qui a lancé finalement.
Oui, c'est Cressman qui a lancé Ecoropa. Ça a commencé par une réunion à l'abbaye d'Encalcate, chez les Dominicains, je crois, de Toulouse, là.
Oui, oui, oui.
Non, Bénédictins, je crois.
Bénédictins. Ils sont des Bénédictins.
Bénédictins, Calcate, de Toulouse. Et ensuite, on s'est réunis. Ça, ça a été, si vous voulez, la fondation. Et alors, on s'est réunis ensuite chez Armand Petit-Jean.
Oui. Et qui était là, la première réunion? Il y avait donc Cressman, vous-même, Petit-Jean déjà.
Alors, il faut vous dire que dès le début, il y a eu une tension entre Cressman et moi. Parce que, ayant un grand sens des public relations avec les notables, Edouard, lui, ce qu'il fallait réunir, les gens importants, c'était les gens importants, si vous voulez, c'est-à-dire des notables.
Des notables, oui.
Alors il a recruté à gauche et à droite, alors on a vu passer des tas de gens que j'oublie maintenant.
Delors,
oui, à un moment donné, il y a eu une réunion à Paris où je me suis bien marré, où il y avait d'ailleurs l'intelligence avec Domenac, la revue Esprit. Il y avait même Delors, le futur, qui était là, on voit très bien.
En observateur, il n'a pas ouvert le bec.
Je le vois encore. Nom de prison rare, le silence prudent, vous savez, il était là pour respirer l'air de ce mouvement écolo qui devenait important. Et il n'a rien dit, puis il a disparu, bien entendu.
Et votre place à l'intérieur, est-ce que vous avez tout de suite été à l'aise? Est-ce que vous en avez vraiment fait partie? Ou est-ce que vous étiez un peu simplement...
J'étais là parce que pour mon ami Cressman, qui connaissait vaguement l'ancienneté, si vous voulez, des opinions sur le sujet, et puis qui avait certainement eu l'occasion de jeter un coup d'œil sur toutes les chroniques et articles que j'avais fait dans Réforme et dans la revue Foi et Vie. Hein,
d'accord.
Au cours, toujours par l'intermédiaire
de
Jacqueline. Poser
vos articles.
Ses choix.
Oui.
Et alors là, dans ce milieu des corps, j'étais toujours en tension.
Toujours hein?
En tension.
Ah, oui.
Parce que je trouvais que ce choix était trop fait, le choix des participants de ces réunions qui ne comprenaient que quelques personnes, étaient trop fait en fonction de l'importance des notabilités, si vous voulez.
Oui, mais il y a eu des rapports personnels, et notamment, chose tout à fait paradoxale, les rapports d'amitié avec Teddy Goldsmith.
Ah oui, je dois dire, le frère du milliardaire.
Quoi. Très sympathique.
Là, non, parce que si vous voulez, dans ce genre de réunion, il y a deux choses qui jouent. Il y a évidemment l'organisateur, et il y a parfois les atomes crochus.
Voilà.
Alors, j'avais beaucoup plu, certainement, à Teddy Goldsmith, dont les idées, d'ailleurs, se sont révélées très étrangères aux miennes, finalement, parce que c'était un type extrêmement vivant, vous le savez, et j'appartenais à la même espèce, à ce titre, si vous voulez. Capable de boire ensemble.
Avec un rire sonore.
Vous savez, et seulement je ne suivais pas du tout, c'était dans cette espèce de panthéisme, d'ailleurs ultra-réactionnaire, oui. Retour à la famille, voilà. À la tribu surtout.
Mais alors Petit-Jean, là, il se gargarisait d'idées qu'il avait déjà eues sous Vichy, finalement, dans cet écologisme.
Je crois que assez peu, quoi. Ce qu'il nous disait, c'est qu'il avait dû se retirer pour méditer au lendemain de la guerre. Ça, je ne suis pas tout à fait. Je crois qu'il y a eu un retrait un peu forcé.
Certain, c'est qu'il menait une vie quasiment érémitique.
Ah oui, il a retiré à la borne.
Oui.
Alors, il avait essayé, à un moment donné, de faire publier chez... Qu'est-ce que c'était, il était lecteur chez... C'est pas chez Gallimard, c'est chez quelqu'un...
Au Seuil, non?
Hein?
Au Seuil?
Au Seuil, oui, je crois. Il avait essayé de faire publier les carriers du Boucau, fruit d'une réunion qui
72.
Avait été tenue ici, vous savez, au démarrage de la mode écologique sur le problème écolo.
Oui, et il n'a pas réussi.
Et finalement, furieux, il a donné sa démission de directeur de collection, quoi, et il s'est retiré à la Baume, là où il a passé, il a vendu son appartement parisien, son affaire.
Et à ce moment-là, il voulait faire de la Baume un centre de rencontre.
C'est ça.
Et ça l'a été pendant quelques années, effectivement. Ouais.
Là, seulement, il y a eu tout de suite, si vous voulez, une tension entre moi et Petit Jean qui a été un de mes rares admirateurs, d'ailleurs de mon bouquin sur la liberté, chose curieuse.
Je fus, oui.
Oui, parce que ça allait, surtout que c'était un bon satisfecit, parce qu'effectivement c'est un excellent styliste, hein, sur ce chapitre, rien à dire. Hein. Alors, Petit Jean, malheureusement, appartient à cette catégorie d'esprit qui n'ont pas l'énergie d'accepter le défi que représente un véritable rapport de l'homme et de la nature, c'est-à-dire un rapport de contradiction. Et du coup, alors, il y avait, si vous voulez, une certaine tendance vers le monisme panthéiste, au fond. D'autant plus que ça allait dans le sens, vous savez, de
Caillouin.
D'autre part, oui. D'un avenir où la science, qui au fond représente les lois de la nature, la science pouvait aider à l'homme à régler le problème de sa relation.
Mais, excusez-moi,
avec la
nature. Le connaissez transversal.
La revue transversale, oui.
Robin
et Petit Jean, quand
voilà,
il était
voilà, c'est ça. Alors, si donc, vous voulez avoir une idée de sa pensée.
De leur pensée. Oui.
Voilà. Alors, c'est sur ce point-là, j'étais en désaccord.
Tout, voilà.
Je dois dire, de même, et ça rejoignait un peu, si vous voulez, ma méfiance vis-à-vis de tous ces notables qui avaient été compromis à 100%, soit avec les borborigmes douteux de la guerre et de ce qui a suivi, et le grand bond en avant de la période, quand je songe que Cressman, là j'ai eu un succès, je l'ai empêché de foutre Mansolt, converti en écolo à la tête des Coropins. Alors j'ai dit non, ça jamais.
Mansolt.
Mais j'ai pas pu l'empêcher.
Bien sûr.
Vous vous rendez compte, Mansolt, pour moi, c'était l'ennemi. Rendez-vous compte que même Dumont, pour moi, Dumont, c'est le liquidateur de l'agriculture traditionnelle, au titre d'expert du plan Monnet.
Pour finir, il y a peut-être après la MIRCA, enfin la lutte contre
les... Alors, sur les Coropins, est-ce que vous vous êtes retrouvé en gros dans ce groupe est-ce que vous avez souvent rencontré de Rougemont? Est-ce qu'il y a participé?
Oh, très peu.
Deux fois.
Assez peu.
Deux ou trois fois. Oui, à Paris.
Et alors, j'ai eu un accrochage avec de Rougemont, je l'ai souvent rappelé, parce que la grande affaire, pour moi, sur le problème de l'énergie atomique, c'est d'abord, il faut dire, l'horreur d'une guerre atomique. Ça, c'est le plus gros, le plus voyant. Et sur ce plan-là, ce qui me paraît évident, le péril numéro un, avant tout autre, c'est la diffusion de cet armement, au nom de l'indépendance nationale des États. Alors, je rencontre de Rougemont dans le couloir, on discute un peu, il m'a dit, oui, c'est la priorité des priorités. La formule n'est pas de moi, mais de lui. Là-dessus, on se réunit en séance, je demande que Coropins prenne en compte cette position, mette au premier plan un avertissement sur le risque, à peu près, on peut dire la certitude d'une catastrophe en cas de diffusion de cet armement, de Rougemont ne me suit pas.
Il reste silencieux,
si vous voulez. Et alors, à mon avis, c'est parce qu'il y avait, comme toujours, chez ces notables, des préoccupations, je qualifierais de politiques. Et là,
stratégique.
C'était stratégique. Ne pas provoquer un conflit direct avec le gouvernement français.
Voilà.
Voilà. Tandis que moi, ça... évidemment, n'ayant aucune importance, cette préoccupation ne comptait pas.
Je sais que tu l'as après alpagué dans le couloir et que tu lui as posé carrément la question et qu'il a dit qu'il était fatigué, que c'était pas longtemps qu'il s'est défilé. Oui. C'est vrai qu'il était malade.
Déjà. Il faut dire qu'il était, je dirais pas mourant,
cardiaque,
mais... Alors ça s'explique. Malade.
Ouais. Non, mais enfin, il aurait pu me soutenir.
Oui,
surtout
était
après
là.
M'avoir dit, oui. Dans ouais. le couloir avant ouais. la séance, c'est la priorité des priorités. Je crois que n'importe quel esprit honnête ne peut pas avoir d'autre opinion.
Bien sûr.
Donc finalement, si on résume, à partir de 68, en gros, vous avez publié donc, une série de livres sur la question de la nature, oui. Triste campagne, le jardin de Babylone, voilà. Hein, notre table rase, etc., hein, sur la question écologique. Vous vous êtes engagé quand même assez activement dans la constitution, dans l'essai.
On a fait des tas de réunions.
Bon, il y a eu les camps du Bouco qui ont eu lieu ici, oui. auxquels j'ai participé, dont j'étais un des organisateurs, qui ont eu lieu.
72.
Deux ou trois ans de suite.
Oui.
Mais on avait gagné du coup, il y en a quatre.
Et ensuite, il y a eu l'engagement dans le donc la participation à la gueule ouverte, participation aussi après la gueule ouverte à Combat Nature.
Mais qui dure encore.
Qui dure encore.
Pas bon.
Oui. Ben vous avez quand même tenu, et vous tenez enfin de temps en temps une chronique.
Non, mais il faut dire que nous avons fait des tas de réunions. On a été, il a été, si tu veux, il a fait un petit peu le conférencier écologique.
Oui, j'ai fait le premier voyageur en idée.
En idée.
Sans succès, d'ailleurs. Parce trouver que souvent des tout petits auditoires d'une dizaine de personnes, c'est tout à fait modeste.
Et je dois dire, parfaitement y compris, du mouvement écolo dont la force était une jeunesse spontanée qui suivait Fournier, mais il faut dire le contraire d'intellectuel, apte à une réflexion, si vous voulez, et à approfondir les problèmes que pose un choix dans le domaine social.
Bon, d'accord. Ça s'est terminé par le feu vert. Finalement, qui est paru en combien, tu le sais, toi ? 82
par là. Et je dois dire que l'échec du feu vert,
c'est après ça, il n'y a plus de.
J'éprouvais toujours, d'ailleurs, mais c'est échec parfaitement normaux, je le dis souvent. On ne va pas quand même donner de l'argent à quelqu'un qui vous prend votre portefeuille, c'est-à-dire qui vous emmerde, quoi. Ça, mais je trouve quand même que pour le feu vert, là, il y a un problème, parce que quand je vois la médiocrité des bouquins qui ont traité le sujet, certains complètement du sujet, même, comme celui de ce...
Comment il s'appelle ?
Luc Ferry.
Même celui de Asfeld. Je me demande à quel titre, je n'ai même pas eu droit à une critique pour mon préféré. Alors c'était à la fois une critique méthodique, qui d'ailleurs s'est trouvée largement vérifiée par la suite, de l'évolution du mouvement écolo, j'étais vraiment, automatiquement, je me dis souvent, ce n'est pas la censure politique dont je relève, c'est une censure sociale.
Sociale, oui. Social, et le mouvement écolo a fini dans la politisation à droite et à gauche.
Alors, on pourrait peut-être aborder ici, quand même, la tentative aussi de création du groupe Duchesne.
Oui, mais ça, c'est venu tout à fait à la
82.
Fin. À la fin.
82, Bernard. Oui. Donc, est-ce que...
Oui, mais entre-temps, il y a eu l'avatar du comité de défense.
Bon, alors, parlons du comité de défense, d'abord, voilà.
Oui, alors il faut vous dire pourquoi j'ai fondé ce comité, parce que là aussi c'est une raison personnelle. D'abord, c'est que la forêt landaise, la côte landaise, souvenir de mes camps, vous savez, on s'est perdu dans la forêt et la solitude landaise, pour moi ça a été une sorte de paradis. Alors je me dis, voir transformer ça en
Floride,
banlieue touristique. Mais alors, surtout, ce qui a été tout puissant chez moi, c'est que cette entreprise de destruction ait lieu au nom de protection de la nature. Alors, j'étais agressé en tant que vocation intellectuelle de service de la vérité. Cela, je me trouvais avec mon prénom, mon adversaire de fond, l'hypocrisie, le mensonge. Oui. Et alors, on a vu en moi un défenseur de la quotidienne, mais en réalité, le motif, c'est ça.
C'est ça. Voilà.
Alors, j'ai présidé ce qui m'a mené, si vous voulez, à faire une analyse très précise, géographique, des documents. Donc, certains éléments, quand l'Amiaca a vu que ça menait à des désastres, a critiqué que l'Amiaca a repris à son compte. Sans bien entendu me signaler en quoi que ce soit. Ouais. Et je me dis souvent, au fond, j'étais idiot, j'aurais pas dû faire cette critique précise, unité par unité, de la côte aquitaine. Je leur ai rendu un grand service. Il fallait les laisser faire, ils aboutissaient à des conneries monumentales, comme par exemple un canal sans écluse entre l'étang d'Ourtin et le bassin d'Arcachon, entre les lacs du Sud et Mimidan. Au nord, ça aurait été superbe, quoi, l'étang d'Ourtin, qui n'a que 5 mètres de profondeur, se serait vidé depuis la côte 14 dans l'étang de la Canot, l'inondation, puis ça se serait revidé dans le bassin d'Arcachon en laissant tout à sec. Et alors, j'aurais dû laisser aussi s'ouvrir le lac marin de l'UPA 6, où c'était la plus encombrée, où l'on allait installer 15 000 lits dans le site classé des petits étangs de Moliès, avec un lac marin d'eau salée de 3 km de long sur 500 mètres de large. Oui. Ils l'auraient fait tout de suite, ils auraient tout ravagé, ils auraient eu des emmerdes avec la loi qui défend les sites classés. Qu'est-ce que j'ai tort
de ne pas les laisser faire.
Tandis que là, ça leur a évité quelques cascades qui leur a permis de réaliser seulement la moitié de leur plan. Et le reproche que je lui fais, là, chez ceux qui m'ont suivi, c'est de ne pas faire une fiesta pour signaler que finalement, ce plan définitif prévu pour 85, je crois, eh bien, ils avaient été eux-mêmes obligés d'y renoncer.
Tout à fait.
C'était délirant. Hein, là, j'ai encore. On avait. Alors, ce qui avait été typique, il avait fallu choper les plans détaillés qu'on refusait de communiquer. On les avait volés dans un bureau de l'Amiaca pour me les remettre en justice.
Ça a été une réussite, finalement, comme engagement, cette Amiaca, non ? Enfin, cette lutte contre la.
La réussite, elle est venue tout simplement de la résistance de la nature qui, tout simplement, ne pouvait pas tolérer le grand canal transaquitain, les unités de 15 000 lits dans des sites classés. Mais ça nous a permis, si vous voulez, de faire, ça m'a permis plutôt, de faire ce qui me manquait, l'expérience d'une véritable entreprise militante s'adressant à un public. Alors j'ai pu mesurer notamment l'obstacle que représentait le monopole de Sud-Ouest. Ça alors, j'aime autant vous le dire. Hein. J'ai pu mesurer qu'effectivement ces techniciens très compétents, architectes, etc., urbanistes étaient par ailleurs des ignorants complets. Par exemple, comment peut-on penser créer un canal transaquitain sans s'interroger sur les cotes d'altitude ? Sur les plans, sous prétexte de préserver la zone naturelle de l'étang de Cousseau, on prévoyait un détour dans des dunes qui font 50 mètres de haut, le canal de Panama, etc.
Sans écluse.
Le grand lac marin de Moliès, ils se sont mis à réfléchir, ils se sont dit oui, d'abord il ne faudrait pas que cette eau salée, d'abord je les ai fait bien chier en rappelant le site classé, hein. Classé, pas inscrit, des étangs de Moliette, brusquement, on s'est dit, on va reculer de 600 mètres. C'est le périmètre légal, bien entendu. Et puis alors, le lac marin, premier stade, on va le faire, mais il faudra mettre un film de plastique au fond. Vous pensez comme un film de plastique de 3 km de long sur 500 mètres. Tarif.
Il rêvait.
Voilà. Alors finalement, on y a renoncé et puis on voit comment nous sommes capables de préserver la nature. Hein. À quel point nous sommes critiques de nos propres projets. Bref,
mais en tout cas, ça a été presque ce qui a fait capoter la carrière de Noël, ma mère.
Ah oui, c'est oui. Vrai, il faudrait raconter la carrière de ce pauvre Noël.
Parce que c'est lui qui s'est chargé de faire le film, vous savez, sur l'aménagement, le Bernard.
Critique.
Et il a donné la parole à Biassini, bien sûr. Et il a, pour le dernier film, il a fait conclure Bernard au lieu de faire conclure Biassini. Non, Biagini est absolument furieux, il est intervenu auprès de SR3.
Il s'est fait vider.
Et il s'est fait vider, mais enfin, ça l'a aidé quand même peut-être après ça à se propulser vers Paris.
En pratique, c'est ça qui a déclenché la carrière de Noël, puisque s'étant fait interdire d'antenne à Bordeaux pour avoir laissé parler la contestation écolo, du coup, il y a des journalistes parisiens ont fait attention à lui et l'ont fait entrer antenne 2.
Voilà. Tu lui as rendu service, Philippe.
Daniel, par rapport à l'ensemble de ce que nous avons vu, comment tu aimerais conclure?
Oui, alors il y avait une question que je voulais, avant peut-être de conclure, tout de suite, voyons la question qu'on avait dit qu'on reporterait après. Oui, le groupe du Chêne.
Oui, le groupe du Chêne, c'est...
Remarquez, pourquoi avez-vous voulu le créer?
J'ai toujours eu l'idée d'un groupe, tu sais, dès la réunion du Bouco, en voyant que, essayant de reprendre avec une nouvelle génération ce qui avait échoué avec la mienne, je dois dire en grande partie à cause du choc de la guerre et des conséquences qui ont longtemps suivi. Hein. Alors, mais il y a eu un moment où je me suis fatigué, si vous voulez, ça se comprend. Après une si longue obstination, et où je me consacrais beaucoup plus à l'expression, si vous voulez, des problèmes qui devenaient pour moi de plus en plus moins le problème du rapport de l'homme avec la nature que celui du rapport de l'homme et de sa liberté.
Je peux intervenir là pour... Parce que si tu as... Je reprends la question de Daniel. Le groupe du Chêne, tu as voulu le fonder pour essayer de faire réfléchir les écologistes aux problèmes fondamentaux. C'est ça l'origine de la fondation du groupe. Puisqu'il y avait des gens comme l'Abbaye, tu sais, qui venaient là. Et finalement, il y avait même Yves Cochet.
Oui, il y avait au début, il y avait des représentants, des maires, des amis de la terre, au
fond. Voilà ceux qui
face à un mouvement écologique qui avait des tas de tendances éclatées.
Et alors, il avait voulu, si vous voulez, faire penser l'écologie par un
personnage très important du mouvement écolo, c'est Pierre Samuel, qui était le secrétaire, en réalité le patron des amis de la terre, ami intime de Brice Lalonde, etc. Oui, mais alors, si vous voulez, de plus en plus...
Et ça, ça n'a pas marché.
J'étais pénétré, si vous voulez, de la superficialisation, de la stéréotypisation du mouvement écolo.
Du mouvement écolo.
Si vous voulez. Alors, ce groupe, je pensais, devait avoir pour fonction, puisque j'avais un minimum d'autorité dans ce milieu, d'ailleurs autorité très relative, presque inconnue, et de moins en moins connue, d'ailleurs, au fur et à mesure que l'écologie devenait un fait médiatique, vous voyez, de créer un groupe qui aurait été un lieu où, sans complaisance, entre personnes, on se poserait des questions fondamentales du rapport de l'homme et de la nature, et du rapport de la nature et de la liberté de l'homme. Voilà.
Finalement, le mouvement écolo a été détruit par vos deux vieux démons que vous aviez déjà rencontrés dans les années 30 et après la guerre, à savoir, en gros, bon, la politique.
Oui, le désir du pouvoir.
Le désir de pouvoir, et puis, bon, je dirais, par la médiatisation. C'est-à-dire, en gros, par les techniques de déformation, de mensonges, de construction artificielle. Oui. Même l'écologie a été laminée, comme l'avaient été certains types d'idées de réforme ou de liberté sociale et collective, par donc, les deux dimensions. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui, face à l'action de Greenpeace? Là, nous sommes au cinquantenaire d'Hiroshima.
Si vous voulez...
Oui.
Je pense que le problème de la médiatisation est un problème capital pour un mouvement naissant. Parce que la première action d'un mouvement naissant, c'est d'atteindre un public, le public, vous voyez, à partir d'un groupe de réflexion personnelle. Or, à ce moment-là, on se casse le nez sur les médias.
Sur les médias et aussi sur les politiciens, les notables.
Il y a deux choses. L'une, où vous êtes attaché à une certaine vérité qui vous concerne. Dans ce cas-là, l'important, c'est de pouvoir communiquer cette vérité. Ou alors, en réalité... Cette vérité n'est pour vous que le prétexte d'accéder à un pouvoir, une notabilité quelconque. Et dans ce cas-là, la première nécessité, c'est l'accès aux médias. Ce n'est pas leur critique. C'est au contraire être reçu par eux. Voilà.
De mon côté, en termes de conclusion, question personnelle, pour moi, peut-être Daniel en aura lui aussi, quel bilan faites-vous de votre... de vos idées des années 30, vous avez traversé 2-3 générations ultérieurement. Bon, est-ce que vous les avez gardées toujours fidèlement, en définitive?
Je peux dire que la seule satisfaction que je peux avoir,
oui.
C'est dû à des tas de facteurs, la chance, tout bêtement, de ne pas avoir été engagé dans quelle... impasse tragique en temps de guerre, par exemple, de ne pas avoir eu de maladie, de grand malheur, d'avoir eu, c'est important, une vie privée qui m'a permis, selon mes goûts, qui m'a permis beaucoup de bonheur. Une de mes grandes idées, c'est que le bonheur n'est pas en bourgeoisant, au contraire, il est libérateur, finalement. Tandis que le malheur mobilise.
Et votre philosophie est tout de même optimiste ?
Elle est optimiste d'une façon très particulière. Elle est optimiste parce que je crois que tout homme ne peut se supporter que si sa vie a un sens quelconque. Le plus humble, au contraire, le plus... profond, le plus grandiose possible. Et alors que le problème, c'est pas du tout de réussir ou d'échouer.
Socialement.
C'est d'arriver à vivre ce qui vous semble beau, réel et vrai. Si vous voulez, c'est tout. Et c'est une affaire, là encore, on retombe sur l'affaire personnelle. Si je considère ma vie personnelle, on me dira avec mépris que c'est un échec total. Si on me juge sur le plan social, de mon point de vue, on peut me dire que ma pensée, puisqu'elle n'est pas reçue par les autorités scientifiques, culturelles, n'est qu'une erreur, un fantasme. Je répondrai que, au moins, ce qui est très rare, ma vie personnelle n'a pas été une vie purement individuelle, que mon regard a été perpétuellement posé sur l'univers qui m'entourait, depuis la réalité politique jusqu'aux interrogations qu'un homme peut se poser devant les questions que lui pose la science, par exemple, et que par conséquent, je peux me retirer en me disant la seule chose qu'un homme ait à se dire, j'ai fait ce que j'ai pu.
Et ça me fait penser une remarque que vous m'avez suggérée. Bon, d'abord, vous êtes très très proche de Montaigne, en votre époque. Deuxièmement, que je parlais de philosophie optimiste parce qu'il y a un amour de la vie. Il y a aussi, si vous voulez, la jouissance sensible de votre existence irréductible à quiconque et de vos proches qui alimentent. Et vous avez une philosophie du devant de votre porte, un peu comme lui autour de son donjon. Je veux dire que ça commence l'existence, la plénitude, à travers l'univers sensible, autour de vous. Et vous êtes le centre en définitive. Pour ça que je vous rapprocherai de Montaigne. Alors qu'en pensez-vous? Est-ce que vous seriez d'accord sur cet optimisme en définitive? Même si fini dans le néant de la personne, il est quand même reproductible à chacun de nous et transmissible à des êtres simples, à vos amis, à votre entourage. Ce n'est pas une philosophie de l'abstraction. Je pense qu'il y a la sensualité, la sensibilité, les poissons, l'eau, la bonne nourriture, le vin, ce fameux culte.
Le feu. Une des choses que je regrette.
La lumière, la beauté de la nature.
Une des choses que je regrette, si vous voulez, c'est ce que j'ai à dire. Et je crois l'avoir dit dans le langage de tout le monde, s'adresse à tout le monde. Du plus humble jusqu'au plus important personnage.
Vous seriez d'accord avec ce rapprochement, bon, peut-être artificiel, mais avec Montaigne, en profondeur, sur le regard de l'homme.
Les personnes sont très différentes. Mais je crois que ce qu'il y a de profondément commun avec moi, c'est, si vous voulez, ce départ de Montaigne qui jette un coup d'œil sur l'univers à partir de sa personne. Voilà. C'est ça. L'humaine condition, c'est pas les sociologues, c'est pas les ethnologues qui vont nous le révéler, c'est un homme capable de penser d'abord sa propre vie. Hic et nunc.
Hic et nunc, c'est ce que j'allais prononcer. C'est une très belle conclusion et nous vous remercions, M. Charbonneau, d'avoir présenté en profondeur votre vie, votre pensée.
Voilà.
Qui permet d'y voir clair pour ceux qui vont la transmettre, la lire et la faire connaître.